VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Ouagadougou, midi à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Mali, une quinzaine de militaires et de nombreux assaillants tués dans les affrontements entre les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et les forces gouvernementales dans le nord du pays. Et ce, malgré les appels au calme des populations et de la communauté internationale. La recrudescence des combats date de l'attaque des éléments de la plateforme pro-gouvernementale Gatia contre les rebelles du MNLA à Menaka, près de la frontière du Niger. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Tout a commencé le lundi 27 avril dernier à Menaka, quand les éléments de la plateforme ont chassé les hommes du MLLA qui contrôlaient cette ville depuis mai 2014. Cela suite aux événements de Kidal. Malgré la prise de la ville par les éléments de la plateforme, les combats se poursuivaient. Baja Ag Amatou, député de Menaka.
Les opérations sont là-bas. Il est vrai qu'il y a des petits accrochages, des affrontements. Et ce qui est sûr, c'est que les éléments de la plateforme sont à Menaka. Les drapeaux du Mali sont déjà montés partout. Menaka est sous la protection des éléments de la plateforme.
Au cours de leur meeting au stade Omnisport Modibo Keita de Bamako, les leaders de la plateforme de la société civile malienne ont lancé des appels aux membres de la CMA. Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali.
Nos frères du MNLA, nos frères du Haut Conseil de l'Azawad, nos frères du mouvement arabe de l'Azawad. Assez, assez. Le peuple malien a assez souffert. Il y a eu assez de misère. Je crois qu'il faut avoir pitié de nos enfants qui sont dans cette situation de misère pour enfin revenir à la raison.
Les travailleurs du Mali ont placé la fête du 1er mai sous le signe de la paix et de la réconciliation. C'est pourquoi l'UNTM propose la tenue très rapide d'une grande concertation nationale. Yacouba Katilé, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali.
Nous nous battons pour la paix, nous battons pour la sécurité. Au moment venu, ce qui a lieu de dire par rapport à des correctifs à apporter sur certains aspects, nous allons faire venir vraiment notre apport pour aller au travail, il faut qu'il y ait la paix. Et pour demander quelque chose à l'employeur, il faut qu'il y ait la paix. Et s'il n'y a pas de paix, on oublie tout ça. Donc nous voulons qu'il y ait la paix et cette paix conditionne vraiment à la cessation des hostilités.
L'ancien premier ministre du Mali pense que c'est un groupe d'individus armés qui est manipulé par certaines puissances internationales. D'où son appel à l'union sacrée autour du Mali. Mohamed Hamed Agamani.
C'est l'union sacrée, j'ai dit bien l'union sacrée, des patriotes maliens, des vrais, pas des gens qui ont leurs pieds ici, ils ont leurs pieds ailleurs. Pas des gens qui sont ici et qui bombardent le Mali demain. Ça suffit. Il n'y a pas de Touareg, il n'y a pas de Bambara, il n'y a pas de Peul, il y a le citoyen malien.
En tout cas, malgré les appels des autorités maliennes, ceux de la communauté internationale, les localités maliennes continuent d'être attaquées par des rebelles. La dernière est Direi, où ils ont enlevé un agent de la police et emporté deux pick-up. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, le président Fornia Singbe, officiellement réélu. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Ce lundi 4 mai, le président élu Fornia Singbe prête serment devant la Cour constitutionnelle pour le tome 3 de son odyssée présidentielle. La Cour a confirmé hier sa victoire à 58,67% des suffrages exprimés devant son challenger Jean-Pierre Fabre, qui se voit crédité de 35,19% des voix. L'audience de la Cour constitutionnelle tenue ce 3 mai ne nous engage aucunement, a déclaré Pascal Adoko, porte-parole de Jean-Pierre Fabre. Fornia Singbe rempile ainsi pour un troisième mandat, alors que Jean-Pierre Fabre dit avoir gagné l'élection avec 52,20% des voix, compilé dans 26 commissions électorales locales indépendantes CELI sur les 42 que compte le Togo. C'est pour la première fois sous la présidence de Fornia Singbe que les résultats d'une élection présidentielle n'ont pas suscité de contestation dans les rues dans les heures qui ont suivi sa proclamation. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Bénin, proclamation des résultats des législatives du mois dernier par la Cour constitutionnelle. Le FCB du président Yayi Boni arrive largement en tête, mais n'obtient pas la majorité des sièges. Plus de détails avec notre correspondant à Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Les sept sages de la Cour constitutionnelle ont proclamé ce dimanche 3 mai 2015 les résultats des législatives qui se sont déroulées une semaine plus tôt sur toute l'étendue du territoire béninois. Mais avant, la Cour constitutionnelle, après examen des différents documents électoraux, a relevé plusieurs irrégularités sur lesquelles revient ici le président Théodore Olo.
Le défaut de la feuille de dépouillement est où du procès verbal du déroulement du scrutin? Le décompte fantaisie de voix sur la feuille de dépouillement et ou du procès verbal de déroulement du scrutin. Le défaut de décompte des voix. Le défaut de décompte des voix par pictogramme.
Mais aussi nombreuses soient-elles, ces irrégularités n'entament en rien la validité du scrutin, a certifié le président de la Cour constitutionnelle qui, désormais,
proclame élu député à l'Assemblée nationale les candidats des partis ou alliances de partis dont les noms suivent. Alliance ABT, deux sièges.
Ces résultats ne préjugent pas des recours et autres contentieux dont la Cour connaîtra ultérieurement. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, les adversaires d'un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza ont repris leurs manifestations aujourd'hui, après une trêve pendant le week-end pour donner au chef de l'État le temps de changer d'avis. Un appel resté sans réponse, selon l'AFP. C'est donc dans un contexte morose que les journalistes burundais ont observé hier la Journée internationale de la liberté de la presse. Timothée Donangmaï a joint à Bujumbura hier Antoine Kabouare du groupe de presse Iwachu.
Cette journée a été célébrée dans un contexte, je dirais, un peu morose. Vous savez que la radio publique africaine a été fermée, des journalistes se sont harcelés. Les radios Isanganiro et Bonesha ne peuvent plus émettre à l'intérieur du pays. Le groupe de presse Iwachu n'a plus de téléphone. On nous a coupé les lignes de téléphone, les lignes fixes. La maison de la presse est fermée. Les professionnels des médias indépendants se sont retrouvés dans les enceintes du groupe Iwachu, où on avait dressé une tente et mis quelques chaises pour nous retrouver entre nous avec quelques invités. Il y avait personne du gouvernement, il y avait quelques diplomates étrangers, beaucoup de journalistes.
Qu'est-ce que les journalistes se sont dit à cette occasion?
Bon, les journalistes ont regretté ce qui se passe, d'autant plus que les médias burundais ont fait vraiment preuve de beaucoup de professionnalisme, de beaucoup d'indépendance. Ce sont des médias salués par la communauté nationale et internationale qui ne méritaient pas le traitement qui leur est réservé aujourd'hui. Ça, c'est un regret unanimement partagé. Mais d'un autre côté, ils se sont dit que, voilà, malgré tout, ils restaient debout, solidaires, unis. Surtout, les médias indépendants n'ont pas versé dans le radicalisme que l'on entend du côté de certains médias qui, eux, ne sont pas inquiétés.
Antoine Kabouare, du groupe de presse indépendant Iwachu, joint à Bujumbura. En RCA, ouverture aujourd'hui à Bangui du Forum de réconciliation nationale. Le point avec notre correspondant sur place, Thierry Mboma, au micro toujours de Timothée Nolangmaï.
Tout est sympa pour ce forum que les Centrafricains attendaient depuis longtemps. Dialogue qui mènera à la réconciliation. Toutefois, les Centrafricains regrettent l'absence des deux anciens présidents, François Bozizé et Michel Djotodia, qui, selon eux, devaient vraiment dire aux Centrafricains comment on en est arrivé à ce niveau.
Quel est le sentiment du côté des milices anti-Balaka et des ex-Séléka?
Avant ce dialogue, nous avons évolué de revendication en revendication. La Séléka qui exigeait plus de place qu'on ne lui a donné, tandis que les anti-Balaka exigeaient quant à eux la libération de leurs pères qui sont détenus en ce moment à la maison d'arrêt centrale de Ngaragba. Mais toutefois, on va quand même aller à ce dialogue.
Notre correspondant Thierry Mboma à Bangui. Et pour terminer, actualité aux États-Unis, levée du couvre-feu à Baltimore dans l'État du Maryland par le maire Stephanie Rawlings-Blake, maintenant que le calme y est revenu. On écoute de nouveau Timothée Donangmaï.
Madame Rawlings-Blake a expliqué qu'elle ne tenait pas à ce que la mesure reste en place plus longtemps que nécessaire. Ma principale priorité dans l'imposition du couvre-feu était de préserver la paix, la sécurité, la santé et le bien-être des habitants de Baltimore, a-t-elle déclaré. Peu après l'annonce de Mme Rawlings-Blake hier, le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a dit de son côté que certains des 4000 membres de la garde nationale et policiers déployés à Baltimore ont amorcé leur retrait. Toutefois, l'état d'urgence restera en place jusqu'au retrait total de ses forces, a-t-il précisé.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et bien sûr également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.